Oui, Commission Gravel-Fontaine, Hélène et Isabelle sont là. Hélène, bonjour!
Bonjour, Steve!
Écoute, il s'est passé quelque chose d'assez particulier au cours des dernières heures. Isabelle aussi, bonjour, c'est qu'elle est par téléphone.
Bonjour, Isabelle!
Bonjour, je suis en studio à Montréal.
En fait, même pas par téléphone, effectivement, en studio. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez unique au cours des dernières heures. On n'avait pas prévu parler de ça au départ, mais écoute, il y a eu vote au Nouveau-Brunswick et l'affaire, c'est que ce matin, on n'est pas trop sûr de qui gouverne.
C'est incroyable ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick hier. Moi, je surveillais ça du coin de l'œil depuis un certain temps parce que je me disais, une défaite du Parti libéral au Nouveau-Brunswick, c'est quand même un autre recul pour Justin Trudeau, là, un autre appui perdu pour Justin Trudeau à travers le Canada. On le sait, hein, il y en a souvent qui disent les libéraux avec Brian Gallant ont joué un peu la première manche là, avant de venir conquérir le gouvernement canadien l'année suivante, là, à la dernière élection fédérale. Fait que j'observais ça avec beaucoup d'intérêt, mais finalement, non seulement le résultat est un gouvernement minoritaire, les conservateurs ont remporté 22 sièges, 21 pour les libéraux, mais les libéraux ont 38 % d'appui chez l'électorat, alors que les conservateurs en ont 32 %. Donc, c'est quand même 6 % de différence entre le meneur qui ne forme pas le gouvernement. Donc, on ne sait pas trop où ça va s'en aller. Là, hier soir, les conservateurs ont fait un discours de victoire, alors que Brian Gallant, le premier ministre libéral sortant, a dit qu'il ne concédait pas la victoire. Il pourrait même se présenter tous les deux chez le lieutenant-gouverneur ce matin pour voir qui sera en mesure de faire des alliances, peut-être, là, avec les deux autres partis.
Ouais, moi, je vois de la mauvaise foi, puis Hélène n'était peut-être pas d'accord avec ça, mais tu sais, ça arrive malheureusement fréquemment. Le Parti libéral doit concéder la victoire. J'ai qu'à repenser, entre autres, aux élections américaines. Hillary Clinton a eu 1 million de votes de plus que M. Trump. C'est pas 2-3 votes de plus, là, mais tu joues dans un jeu. Celui qui a le plus de sièges gagne. Excusez, mais c'est conservateur.
Oui, mais 38 % versus 32, c'est quand même considérable. Et deuxièmement, il y a deux comtés là-dedans où il y a moins de 25 voix de différence.
C'est ça.
Alors ça, c'est sûr que ça va aller en recomptage judiciaire.
Exact.
Ça, c'est un automatisme.
Ben oui.
Et il y en a, de mémoire, 5 autres qui sont 100 votes de différence.
Ce qui est quand même considéré comme proche.
Bien, c'est très proche. Alors probablement que là, on va demander un recomptage également. Alors, il n'y a rien de joué, à mon avis. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dessus, là, c'est de voir un peu, puis je vais faire un parallèle, comme tu le faisais, Isabelle, avec Justin Trudeau. Brian Gallant, là, il est un peu un clone plus jeune de Justin Trudeau, à
Absolument.
Mon avis. Cute gars, il vient de se marier, il a l'air hip. Il a la même fonction économique que Justin Trudeau, c'est-à-dire on va dépenser beaucoup dans les infrastructures, on se préoccupera pas tant que ça de la dette. Et on a vu ce que ça a donné là, c'est que ce vent-là n'a pas perduré. Et l'autre chose, c'est que les troisièmes partis ont quand même récolté 3 comtés chacun, ce qui n'est pas rien dans une province où tu n'avais jamais vu ça depuis 100 ans, là, finalement.
Absolument.
Alors, est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec le Québec? Est-ce que ça va donner des ailes un peu, par exemple, à Québec solidaire au Québec? On pourrait peut-être le penser. Mm-hmm. On le voit d'ailleurs là, que c'est une réalité. Mais quand même, moi, ce qui me marque, c'est cette mode à la Justin Trudeau qui ne semble pas être efficace sur le long terme.
En même temps, est-ce que c'est la mode à Justin Trudeau qui n'est pas efficace sur le long terme ou l'appétit des électeurs pour une nouvelle façon de faire de la politique? T'sais, on en a un peu parlé dans la campagne au Québec, mais là, on va voir nos institutions vont être testées avec cette situation-là. Comment est-ce que le lieutenant-gouverneur réagira à deux chefs de parti qui prétendent être capables de former un gouvernement?
Mais en même temps, Isabelle, je ne vois pas nécessairement le Parti conservateur du Nouveau-Brunswick comme étant une source folle de changement, là. T'sais, on parle plutôt d'un chef qui gouverne comme le bon père de famille. C'est très traditionnel comme parti.
Absolument. Puis, tu sais, on le voit aussi, le parti qui a fait la plus grande percée, là, qui s'appelle l'Alliance des gens.
Ouais. Contre le bilinguisme, d'ailleurs.
Qui est contre le bilinguisme, qui est un parti plus de droite. Là, on peut le comparer au Wild Rose en Alberta. Donc, un parti qui veut de la rigueur budgétaire, diminuer les dépenses publiques, réduire les subventions aux grandes entreprises, baisser les taxes des citoyens et des PME. Donc un parti beaucoup plus piqué, qui a un discours très populiste. Puis, effectivement, aussi, qui s'attaque directement aux politiques de bilinguisme au Nouveau-Brunswick, qui a fait une percée. Donc, est-ce que ce parti-là, puis il y avait des gens, même chez les conservateurs, qui disaient, même hier soir, jamais, 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 on ne fera d'alliance avec l'Alliance des gens.
Et pourtant, c'est ce qui semble se dessiner. Là.
Sauf que,
parce que les libéraux ne feront sûrement pas ça avec l'Alliance des gens. Ils vont aller plus, si c'est le cas,
du côté du Parti vert.
Absolument. C'est
sauf
ça.
Que je vous entends, puis on peut noter qu'il y a une forme de populisme, en tout cas, qui est à la mode.
Ah, ça, c'est clair. C'est clair.
Il y a une forme de populisme.
L'Amérique du Nord.
C'est la fin du bipartisme traditionnel. Mm. On pourrait voir aussi, en tout cas, la fin du bipartisme.
Tu sais, même dans
Québec,
les modes de changement, là, on regarde Sherbrooke, Steve Hussier, c'était un peu ça. Là. C'était un autre courant, c'est une autre façon de faire de la politique. Bon, on n'irait peut-être pas dans le conservatisme.
Je
ne
suis pas sûr. Je ne suis pas certaine qu'on peut faire un parallèle avec ça. Non, pas du tout.
À cause de...
Mais par contre, là, je dirais que la volonté de changement est entrée en ligne de compte. Puis peut-être aussi une faiblesse de campagne. Là, je vais appeler ça comme ça.
Okay.
Mais je ne ferais pas de parallèle directement avec ce qui s'est passé à Sherbrooke.
On revient chez nous, hein, parce qu'il y a eu une rencontre entre des candidats locaux et la communauté musulmane. Donc, des candidats qui se présentent à l'élection provinciale québécoise. Bien sûr, signes religieux, intégration, la langue arabe. Il y a plusieurs de ces questions qui ont été posées aux candidats estriens.
Oui, apprentissage de la langue arabe, moi, je dois vous dire que je n'ai pas compris encore cette question-là. Puis on a parlé évidemment du cimetière musulman. Alors, les principaux candidats à Sherbrooke ont répondu à la communauté musulmane. Mais une des raisons pourquoi je voulais parler de ça ce matin, c'est qu'hier, j'étais avec une gang de filles, une gang d'amis, puis, dont quatre qui sont musulmanes. Et qui ont parlé de ça, en réalité, parce que ça a eu lieu dimanche, cette rencontre-là, de mémoire. Et elle disait, on ne comprend pas, d'abord, on ne se reconnaît pas dans les organisations qui ont demandé cette rencontre-là.
Okay.
Nous autres, là, l'intégration, ben, ça s'est fait naturellement, puis on a essayé de se coller aux Québécois puis d'apprendre leur réalité. Non pas, on n'a jamais voulu reproduire ce qu'eux appellent le bled ici à Sherbrooke. Puis l'autre chose sur laquelle ils ont vraiment mentionné quelque chose qu'on entend rarement, c'est que... comme ils viennent de pays avec des cultures un peu plus machistes, je dirais, là, où on s'attend à ce que ce soit l'homme qui soit le pourvoyeur, il faudrait dire aux femmes, quand ils arrivent ici, « Écoute, vous avez le droit, vous aussi, de revendiquer vos diplômes puis de travailler. Mm-hmm. » Et ça, ils disent, il y en a plusieurs femmes qui restent à la maison, tout simplement, parce que, par manque de communication, elles ne le sentent pas. Ben, ça n'a rien à voir avec le voile qui, par exemple, on empêcherait quelqu'un de voilier de travailler. C'est plus le fait de dire, hey, ici, là, tu peux revendiquer ton droit et à l'éducation et au travail au même titre que ton mari.
Plus un réflexe culturel.
Oui, tout à fait.
Une obligation. Moi, dans ce... Puis, tu sais, évidemment, on n'était pas là. On a lu ce qui s'est écrit dans les médias puis sur les médias sociaux. Mais, en fait, d'abord... Je trouve que c'est une excellente initiative de la part des organisations. Là, je ne peux pas dire si sont-elles représentatives ou pas de l'ensemble de la communauté, mais je pense que c'est un geste de tendre la main puis d'entendre les candidats. C'est aussi une bonne chose que les candidats y soient allés. T'sais, mon réflexe, l'organisatrice en moi, là, qui est toujours très proche de sortir, la première chose que je me suis dit, c'est « Voyons, pourquoi ils vont là? » La CAQ puis le PQ, ils n'ont aucun vote à gagner. Pourquoi ils vont là? Puis après ça, je me suis dit « Non, t'sais, ça crée un dialogue. On tend la main. Peut-être effectivement que les positions ne sont pas si irréconciliables. » Moi, j'étais heureuse de constater dans quelqu'un de la communauté qui écrivait sur sa page Facebook qu'effectivement, la communauté est d'accord avec l'idée de recevoir des services à visage découvert, donc sans burqa ou sans niqab. Donc, tu te dis, OK, il n'y a pas de dogmatisme là-dedans, il y a peut-être un peu d'ouverture. Puis c'est en discutant puis en se tendant la main qu'on pourra peut-être arriver à un moment donné à une position qui pourra être confortable pour tout le monde puis qui nous permettra de faire un bout de chemin.
Et j'aille pas l'idée aussi où, tu sais, au lendemain d'un vote, là, tu te ramasses avec un gouvernement, puis au moins, tu as déjà parlé à ces groupes-là. T'sais, tu ne te réveilles pas du jour au lendemain avec « Ah ben, tabarouette, ils nous ont choisi ce gouvernement-là, et je leur ai jamais parlé. »
Mais ça fait quand même un bout de temps que la discussion est ouverte. Il ne faut pas se le cacher. Mais depuis la commission de Bouchard-Taylor que ça se parle.
Ah, mais en fait, il faut reconnaître que les gouvernements n'ont finalement jamais pris de décision.
Ben oui, ça, c'est le grand problème, c'est le grand vide.
Ah ben oui.
Tu sais, ce qu'on appelle la neutralité, là, c'est l'art de ne pas prendre parti, et ça nous pose problème.
Au Québec, on est sur le neutre. On n'est pas neutre, on est sur le neutre.
L'autre chose, c'est que, considérant le cimetière musulman, puis je reprends un peu les propos des femmes d'hier, c'est qu'ils disaient, oui, OK, le cimetière musulman, on peut comprendre, mais ce qu'on ne veut pas, c'est de revoir ce qui s'est fait un peu en France, c'est-à-dire, tu as un cimetière, puis après ça, tu insistes pour avoir une mosquée à côté, puis après ça, un quartier. Puis ça fait en sorte que ça crée des ghettos. Mmh. Elle dit, on ne veut pas ça au Québec, comme on l'a vu en France ou en Belgique, puis on voit ce que ça a donné comme résultat.
Puis en même temps, quand tu regardes les autres enjeux qu'ils ont soulevés, c'est les mêmes qu'on connaît pour toute l'immigration.
Ben oui,
intégration, accès au marché du travail.
Reconnaissance des acquis, c'est ça.
Exactement, le taux de chômage plus élevé chez les communautés immigrantes que dans la population en général. Fait que dans le fond, c'est les mêmes préoccupations.
Oui, tout à fait.
Isabelle, Hélène, merci beaucoup.
Merci,
à demain.
Merci beaucoup, on se retrouve demain, même heure.